Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Je suis venue vous lire sur JetFM, un rendez-vous littéraire et musical. Alors pour cette émission, j'ai eu envie de vous inviter à une balade. Une balade un peu particulière. Une balade dans ma bibliothèque. Vous proposez au fil de l'émission des extraits de livres qui m'ont touché, ému, inquiété ou effrayé, interrogé, voire questionné. Des livres que l'on garde près de soi, que l'on relit par plaisir. Des livres qui ont bercé notre histoire, notre vie. Des livres qui touchent au cœur au plus profond de nos entrailles. Pour accompagner cette balade éclectique, Michel Yordanov, mon comparse, l'homme de l'ombre caché derrière ses manettes, et qui à chaque émission nous concocte un programme musical en lien avec les lectures, un exercice pas toujours facile, et je le salue pour toutes ses trouvailles. Michel nous invite donc lui aussi à le suivre dans sa bibliothèque musicale, une balade bien à lui pour notre plus grand plaisir. La musique, comme les livres, sont porteurs de bien des messages.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close. Qui donc pouvait être ces gosses, cette invasion de petites filles ? Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille ? J'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Ils jacassent à voix basse, dès que j'ouvre mon bouquin, je délivre de leurs livres des héros ou des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent d'un jeu sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me parrainent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. Depuis, dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir les personnages. Pour mon malheur, je lis beaucoup et c'est risqué, je le sais bien. Mes hôtes peuvent aussi être fous, ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures, repoussé quelques décadents, échappé de peu aux morsures d'un vieux roumain extravagant. J'évite de lire tant qu'à faire les dépravés, les malades, les histoires de serial killers, les œuvres du marquis de Sade. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros ou des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent linges sales et chagrins. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. N'importe quoi qui est imprimé me saute aux yeux littéralement. Et l'histoire devient insensée car je ne lis pas que des romans. Ainsi j'ai subi les caprices d'un Apollon de Prospectus. J'ai même rencontré les trois Suisses et le caissier des emprunts russes. Un article du code pénal poilu comme une moisissure s'est comporté comme un vandale se soulageant dans mes chaussures. Ce démon qui vient de filer, ça ne serait pas, je me le demande, un genre de verbe irrégulier sorti d'une grammaire allemande. Cesser de lire pour qu'ils cessent de me hanter. Brûler mes livres pour finir dans un glorieux auto-da-fé. Mais j'aime trop comme un opium ce rendez-vous de chaque nuit. Ces mots qui deviennent des hommes, loin de ce monde qui m'ennuie. Malgré les monstres et les bizarres, je me suis fait quelques amis. Alors j'ouvre une page au hasard d'un livre usé que je relis. depuis j'attends, je dois l'avouer, au coin d'un chapitre émouvant, que vienne d'un prince ou d'une fée, un amour comme dans les romans, comme dans les romans.
Dans ma bibliothèque, tout de suite sur la gauche, se trouvent une bonne cinquantaine de romans de tout genre. J'ai été contente de retrouver quelques titres et auteurs de romans, rangés selon l'ordre de mes intérêts ou de mes préférences. Le classement est un peu aléatoire, c'est vrai, mais ceux que j'aime particulièrement sont alignés bien en évidence sur l'étagère du haut en gauche. Ce sont mes préférés. Walter Benjamin disait qu'une bibliothèque est toujours le témoin privilégié du caractère de son propriétaire. Le roman que j'ai choisi de vous présenter pour débuter cette émission est celui d'une femme, Françoise Lefèvre. Son livre, Le Petit Prince Cannibale. Femme déchirée, femme déchaînée, la narratrice de ce livre est avant tout une femme, avec toute sa passion, un écrivain qui tente de raconter l'histoire de Blanche, une éblouissante cantatrice que la mort ronge vivante. Mais elle est d'abord la mère de Sylvestre, l'enfant autiste, qu'elle veut à tout prix faire accéder à la vie et au monde des autres. Dans ces séquences de vie, surgissant d'un temps mal défini, il est souvent question d'enfants et de lumière intarissable, de volupté et de vin, de détresse et d'errance dans de longs corridors. Ces impressions me surprennent n'importe où, à cette table de travail, sur un trottoir, au volant de ma voiture, quand j'attends les enfants à la sortie de l'école. Parfums, lumière, murmures, je les ressuscite, soumise à ce papier, cette machine, cette chambre. Je ne me sens pas libre. J'aimerais rester adossée contre un mur où s'attarderait un peu de soleil. Mais je suis prisonnière des vieilles maisons, des forêts, de la nuit, des eaux dormantes, des nouveau-nés au fond de leur berceau. Deux, surtout. J'userai ma vie penchée au-dessus des berceaux. Je perdrai mes yeux à trop regarder mon nouveau-né, dormant dans son odeur légère des tables et de lait. Bonheur et angoisse mêlées serrent ma gorge. Tout est normal. Il respire. Sur l'horloge, le temps s'arrête dans mes bras de lierre. Moi aussi, je m'assoupis par instant, à force de te contempler, la joue appuyée, marqué, forgé par le fer de ton berceau, comble du bonheur, joie nue, loin, si loin du désir. Mes quatre enfants, combien de nuits les ai-je veillés? Partis pour quelques minutes, mes pieds raidis de froid me rappelaient que des heures s'étaient écoulées. J'ai veillé sans doute plus de 1001 nuits. Inquiète, fiévreuse, je me désincarnais presque, errant d'une pièce à l'autre, les bras tendus en avant, long, immensément long, comme ceux d'une revenante. Les bras tendus dans la longue robe blanche pour embrasser, bercer, consoler, allaiter le nouveau-né qui pleure. J'ai aimé jusqu'à ses poignards dans le dos, à force d'être penchée sur lui ou de le porter. Cette morsure de la fatigue, je me suis cravachée pour la dépasser et lui fredonner ses chants d'entrailles sur deux ou trois notes, afin de conjurer la mort et la nuit. Toi, j'ai besoin de tenir contre moi, de t'entendre respirer. Ta main minuscule serre mon doigt avec cette force stupéfiante des nouveau-nés. J'ai besoin de ton odeur. Je t'emmène partout caché sous ma cape, si bien caché, si bien au chaud, que je t'entends presque ronronner. Le plus merveilleux, c'est de t'allaiter adossé contre un arbre, sentir ce jaillissement qui s'en va te fortifier. Le plus fabuleux, c'est d'être un corps à manger, un corps nourrissant. Cette fuite du lait vers ta bouche adorable et vorace, c'est aussi la fuite du temps. Alors je reste là, en pleine détresse, en pleine lumière, sachant bien que c'est aujourd'hui l'éternité, maintenant et tout de suite.
Something.
Alberto Manquel disait « J'explore ma bibliothèque à la façon d'un homme qui retrouverait son pays natal après une absence de plusieurs années. » Toujours sur l'étagère de gauche se trouve un très beau roman de Darina Al-Joundi et Mohamed Kassimi, « Le jour où Nina Simone a cessé de chanter ». Darina Al-Joundi et Mohamed Kassimi racontent une histoire stupéfiante, une histoire faite de vérité et de folie, de violence et de tendresse. Toute l'histoire du Liban contemporain, concentrée en l'histoire d'une personne, fidèle au rêve persistant d'un père journaliste et écrivain, pour qui la liberté n'est pas négociable. Arrêtez ce Coran de malheur ! Je ne sais pas pourquoi j'ai crié, mais je devais crier pour ne pas trahir la promesse faite à mon père. Ne laissez personne lire le Coran à son enterrement. Mon père est mort le jour où il a compris qu'il n'avait plus d'histoire à me raconter. Je suis devant sa dépouille. Il est nu, au milieu de la grande pièce, recouvert d'un simple linceul blanc. Allongé sur le dos, il a les mains croisées sur le sexe. Je le regarde. Il a l'air tellement serein. C'est la première fois de ma vie où je le sens en paix. Je ne regrette pas sa mort. Je savais depuis longtemps qu'il allait mourir parce qu'il m'avait tout dit. De la fenêtre ouverte, je vois les maisons de mon village. Ahmoun, qu'on appelait Château de Beaufort. Les maisons bombardées fument encore. L'armée israélienne vient juste d'évacuer le sud Liban après 20 ans d'occupation. Je vois les collines alentour. Elles sont noires. Les gens sont venus de Tyr, de Sidon, de Damas, d'Alep, de Beyrouth, assister aux funérailles de mon père. Je lui caresse le visage. Il a une peau de bébé, même pas froide. C'est le mois de janvier. Il pleut. Je sens l'odeur de la pluie monter de la terre rouge du sud Liban. Je vois au loin les plaines de la Galilée. Je vois, là-haut, la neige qui tombe lentement sur les sommets du mont Hermon. La porte de la chambre s'ouvre. Des femmes en noir surgissent. Elles pleurent. Elles gémissent. Elles se jettent sur mon père. Elles lui embrassent le visage. Elles lui embrassent les mains. Elles lui embrassent les pieds avec une avidité. Je murmure à l'oreille de mon père. « Salopard, tu n'en rates pas une ?» Soudain, j'ai entendu une voix étrange qui m'a déchiré le ventre. Un cri insupportable qui m'a fendu le crâne, m'a troué la peau. Quelqu'un était en train de hurler des sourates du Coran. J'ai ouvert la porte de la pièce voisine. Elle était pleine de femmes en noir. Elles pleuraient autour d'un radiocassette qui diffusait des prières. Je les ai enjambées, je les ai piétinées, je me suis emparée du radiocassette. J'en ai coupé le son. Oh, les femmes poussaient des cris d'horreur. Ma mère, mes sœurs tentaient de me rattraper. « Arrête, tu es folle, reviens, ce n'est pas le moment !» J'ai couru me réfugier dans la chambre de mon père. J'ai fermé à double tour sur cette porte en chêne. J'ai entendu les hommes hurler « Espèce de folle, remets le Coran, sinon on te tue. Ouvre, salope, ouvre. On ne coupe pas la parole de Dieu. Ouvre, putain, si tu touches au livre de Dieu, tu es morte !» De derrière la porte, je crie à mon tour. « Ce Dieu n'est pas le Dieu de mon père. Il n'a jamais eu de Dieu, mon père. Il m'a fait jurer. Ma fille, fais gaffe à ce que ces chiens ne mettent pas du Coran le jour de ma mort. Ma fille, je t'en prie, je voudrais du jazz à ma mort et même du hip-hop, mais surtout pas du Coran. Je veux bien lui mettre Nina Simone, Miles Davis, Fairouz et même Mireille Mathieu, mais pas de Coran. Vous m'entendez? Je vais lui passer à la place de vos prières le dernier tango à Paris. Il aimait la coupole et le beurre. Il prenait toujours du florier demi-ciel, papa. Vous ne l'enterrez pas comme ça. Vous ne l'aurez pas. Je ne vous ouvrirai jamais. » J'ai enlevé la cassette du Coran et j'ai mis à la place « Save Me » de Nina Simone. Les coups redoublaient contre la porte. Moi, je dansais seule face à mon père. Je lui parlais fort, comme si je voulais le réveiller de sa mort. « Heureux ? Tu l'as eu, ta Nina Simone. Tu l'as eu, ton Zaz. Je t'ai épargné du Coran. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qui va me protéger contre ces monstres ? C'est toi qui me l'as appris. Méfie-toi, ma fille, tu me disais. Tous les hommes de ce pays sont des monstres pour les femmes. » Ils sont obsédés par les apparences, ils sont ligotés par les coutumes, ils sont rongés par Dieu, ils sont bouffés par leur mère, ils sont taraudés par le fric, ils passent leur vie à offrir sur un plateau leur cul au bon Dieu, ils ouvrent leurs braguettes comme on arme une mitraillette, ils lâchent leur sexe sur les femmes comme on lâche des pitbulls, quel chien! Tout à l'heure, une de tes ex-maîtresses a voulu t'embrasser les mains. Je lui ai conseillé de t'embrasser la bite, on ne sait jamais, elle aurait pu te ressusciter. Elle aurait joué Jésus et toi Lazare.
I wish I could live like I'm long.
roman, sur l'étagère de gauche, je me suis régie de retrouver la ferme africaine. Et Lettres d'Afrique, la publication des lettres de Karen Blixen, envoyée à sa famille au Danemark, entre 1914, date d'une arrivée en Afrique qui coïncida avec son mariage, et 1931, date de son départ définitif, le cœur brisé, après une série d'échecs. Ces lettres révèlent la personnalité jusqu'ici assez secrète de cette aristocrate, aux prises avec une vie à laquelle elle n'avait nullement été préparée, et qui prend au sérieux et même au tragique une entreprise purement commerciale à l'origine. Un gouffre se creuse peu à peu entre une femme et son entourage. Une catastrophe ultime met sa vie en péril. Il devient alors urgent de préserver un sens à sa vie, au-delà des mers et du désespoir. Témoin privilégié, Karen Blixen découvre à sa propre stupéfaction qu'il existe des alternatives en matière de culture. Dimanche, 13 avril 1930. En cet instant précis, une immense nogma s'est rassemblée sur ma pelouse. C'est vraiment charmant de les voir à nouveau dans leur véritable tenue. Cette coutume ne tardera certainement pas à disparaître totalement. Hélas, trois fois hélas, qu'avons-nous fait et que faisons-nous de ce pays? Et qu'est-ce donc que cette civilisation que nous y introduisons? J'y pensais sur le bateau sur lequel les gens croient naturellement qu'ils apportent les trésors de la culture au pays des sauvages. Pendant les 17 jours que j'ai passés à bord, pas une seule parole n'a été prononcée. Pas une seule chose n'a été discutée ou envisagée qui fût au-dessus du niveau de l'ignorance et de la stupidité. Pour ma part, j'ai connu deux de mes plus belles journées, car Denis est arrivé ici jeudi et reparti hier. Il a sur moi un effet magique. Je n'ai connu un tel sentiment de bonheur qu'en sa compagnie. C'est comme s'il m'apportait de l'air et de la lumière après un long séjour entre quatre murs. Hier, je suis montée avec lui dans son aéroplane et je doute fort qu'il puisse exister pour moi un plus grand bonheur que de voler au-dessus du Nyong avec lui. Nous sommes restés une heure en l'air et entre autres choses, nous avons longé la crête de Nyong Hills, à certains moments presque au ras du sol, de sorte que nous pouvions voir des troupeaux d'impalas et de zèbres en dessous de nous et à d'autres moments, à 2000 pieds au-dessus des sommets. L'Afrique doit être vue du ciel, c'est certain. De là-haut, on perçoit bien ces immenses distances et le jeu de l'ombre et de la lumière sur celles-ci. Imagine-toi de grandes et vastes plaines vertes qui s'étendent à l'infini, en dessous de toi, avec des troupeaux de zèbres, de gnous, de girafes, ainsi que des montagnes vertes qui s'étirent. Des jeux d'ombre et de lumière sur tout cela. Et puis, toi, qui survole l'ensemble de très haut et à très grande vitesse. Je me demande si je pourrais imaginer un bonheur plus grand que de survoler les plaines africaines en compagnie de Denis. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'aérien en lui, un sanguin, chaud et humide. Oui, c'est bien cela, sanguin, chaud et humide.
Oh, yeah, go see.
Je me rappelle un rêve, il y a quelques nuits de cela. J'avais trouvé un livre et je me disais que c'était épatant d'avoir dégoté cette édition. Mais après, j'ai pensé que si j'étais en train de rêver, je n'allais pas le retrouver le lendemain. Alors me suis-je dit, je vais le mettre en lieu sûr. Et je l'ai mis dans le tiroir de ma bibliothèque. Comme cela, je pourrais le retrouver à mon réveil. Ce livre, c'est « En attendant votre jungle » d'Olivier Bourdeau. Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur « Mr. the Jungle » de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a pas de place, uniquement pour la fantaisie, le plaisir et les amis, mais pas pour autre chose. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère. Feu follet imprévisible et extravagant. Ceci est mon histoire, vraie, avec des mensonges à l'endroit, à l'envers, parce que la vie, c'est souvent comme ça. Mon père m'avait dit qu'avant ma naissance, son métier c'était de chasser les mouches avec un harpon. Il m'avait montré le harpon et une mouche écrasée. J'ai arrêté car c'était très difficile et très mal payé, m'avait-il affirmé, en rangeant son ancien matériel de travail dans un coffret laqué. Maintenant, j'ouvre des garages. Il faut beaucoup travailler, mais c'est très bien payé. À la rentrée des classes, lorsqu'aux premières heures on fait les présentations, j'avais parlé, non sans fierté, de ces métiers, mais je m'étais fait gentiment gourmander et copieusement moquer. La vérité est mal payée, pour une fois qu'elle était drôle comme un mensonge, avais-je déploré. En réalité, mon père était un homme de loi. C'est la loi qui nous fait manger, s'esclaffait-il en bourrant sa pipe. Il n'était ni juge, ni député, ni notaire, ni avocat, il n'était rien de tout ça. Son activité, c'était grâce à son ami sénateur qu'il pouvait l'exercer. Tenu informé à la source des nouvelles dispositions législatives, il s'était engouffré dans une nouvelle profession créée de toutes pièces par le sénateur. Nouvelles normes, nouveaux métiers. C'est ainsi qu'il devint ouvreur de garage. Pour assurer un parc automobile sécurisé et sain, le sénateur avait décidé d'imposer un contrôle technique à tout le monde. Ainsi, les propriétaires de tacos, de limousines, d'utilitaires et de guimbardes en tout genre devaient passer une visite médicale à leur véhicule pour éviter les accidents. Riche ou pauvre, tout le monde devait s'y plier. Alors forcément, comme c'était obligatoire, mon père facturait cher, très cher. Il facturait l'aller et le retour, visite et contre-visite, et d'après ses éclats de rire, c'était très bien comme ça. « je sauve des vies » riait-il, le nez plongé dans ses relevés bancaires. À cette époque, sauver des vies rapportait beaucoup d'argent. Après avoir ouvert énormément de garages, il les vendut à un concurrent. Ce qui fit un soulagement pour maman, qui n'aimait pas trop qu'il sauve des vies, car pour cela il travaillait beaucoup et nous ne le voyons quasiment jamais. « Je travaille tard pour pouvoir m'arrêter tôt », lui répondit-il, ce que j'avais du mal à comprendre. Je ne comprenais pas souvent mon père. Je le compris un peu plus au fil des ans, mais pas totalement. Et c'était bien ainsi. Il m'avait dit qu'il était né avec... Mais j'ai très vite su que l'encoche cendrée, légèrement boursouflée à droite de sa lèvre inférieure, qui lui donnait un beau sourire un peu tordu, était due à une pratique assidue de la pipe. Sa coupe de cheveux, avec sa raie au milieu et des vaguelettes de chaque côté, me faisait penser à la coiffure du cavalier prussien qui était sur le tableau dans l'entrée. À part le Prussien et lui, je n'ai jamais vu qui que ce soit coiffé comme ça. Les orbites de ses yeux légèrement creuses et ses yeux bleus légèrement globuleux lui donnaient un regard curieux, profond et roulant. À cette époque, je l'ai toujours vu heureux. D'ailleurs, il répétait souvent « Je suis un imbécile heureux ». Ce à quoi ma mère lui répondait « Non, vous croyons sur parole, Georges, nous vous croyons sur parole ». Tout le temps, il chantonnait. Mal. Parfois, il sifflotait, tout aussi mal. Mais comme tout ce qui était fait de bon cœur, c'était supportable, eh bien, on aimait ça. Il racontait de belles histoires, et les rares fois où il n'y avait pas d'invité, il venait plier son grand corps, tout sec, sur mon lit pour m'endormir. « Ce sont des histoires à dormir debout, disait-il avant de quitter ma chambre. Et là encore, on pouvait le croire sur parole. Le dimanche après-midi, pour chasser tous les accès de la semaine, il faisait de la musculation. Face au grand miroir, encadré de dorures et surmonté d'un grand nœud majestueux torse nu et la pipe au bec, il remuait de minuscules haltères en écoutant du jazz. Il appelait ça le gym tonic, car parfois il s'arrêtait pour boire son gin tonic à grande gorgée et déclarait à ma mère « Vous devrez essayer le sport, Marguerite, je vous assure, c'est drôle et on se sent beaucoup mieux après. » Ce à quoi ma mère lui répondait, qui essayait la langue coincée entre les dents et un œil fermé, de piquer l'olive de son martini avec un parasol miniature. « Vous devrez essayer le jus d'orange, Georges, et je vous assure que vous trouveriez le sport beaucoup moins marrant après. Et soyez gentil, cessez de m'appeler Marguerite. Choisissez-moi un nouveau prénom, sinon je vais me mettre à meugler comme une génisse. » Je n'ai jamais bien compris pourquoi, mais mon père n'appelait jamais ma mère plus de 2 jours de suite par le même prénom. Jangles and he danced for you in worn-out shoes, silver hair, ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high. And then he'd lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life, talked of life, laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles, then he danced a lick right across the cell. Grab his pants, take a better stance, jump up high. That's when he clicked his heels. Then he'd let go that laugh. Lord, 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 he'd let go a laugh. Shake back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, the man could dance. Told me other times he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears of 15 years how his dog and he, they would travel about. But his dog up and died. The dog just got old and died. After 20 years he still grieved. He said, I dance now at every chance in honky-tonks. For my tricks and tips, the most of them I spend behind me. These county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Mr. Bojangles.
please, old jangles. We need to see you dance again. Mr. Bo, Mr. Bo, Mr. Bo Jangles.
Ranger une bibliothèque, disait Borges, c'est exercer de façon silencieuse l'art de la critique. Annie Mankell, quant à lui, a reçu le prix Mystère de la critique. C'est un auteur de romans policiers avec son principal héros, l'inspecteur Wallander, pour lequel l'Académie suédoise lui a décerné le Grand Prix de littérature policière. Néanmoins, il a commencé sa carrière comme auteur dramatique et a également écrit de nombreux ouvrages pour enfants. Mais de tous ses livres, celui que je préfère, après toutefois quelques hésitations entre l'histoire incroyable des chaussures italiennes et celle de Profondeur, c'est Profondeur que j'ai choisi de vous présenter. Un roman d'amour forcené, une célébration de la langueur et de la fureur, de la tendresse et du désarroi. L'histoire se passe en octobre 1914. L'Europe est au bord de la guerre. Afin d'améliorer la défense des côtes suédoises, le capitaine Lars Tobiasson inspecte les routes maritimes. Sur la toute petite île de Sara Fredrika, il rencontre une femme dont il devient l'amant. Pour la revoir, il ment à sa femme, à l'amirauté, à lui-même, jusqu'au point de non-retour. Les jours sans vent, on entendait les cris des fous de l'autre côté du lac. En automne surtout, c'était la saison des cris. C'est aussi en automne que commence cette histoire. Dans un brouillard humide, par quelques degrés à peine au-dessus de zéro, une femme entrevoit soudain la liberté. Elle a découvert un trou dans la clôture. Automne 1937. Cette femme s'appelle Christina Taker. Elle est enfermée depuis des années dans un grand hôpital psychiatrique aux environs de Stater. Elle n'a plus aucune notion du temps. Longuement, elle fixe le trou, comme si elle ne saisissait pas. La clôture a toujours été une limite dont elle ne devait pas s'approcher, une frontière bien arrêtée. D'où vient cette ouverture? Cet endroit où la clôture a cédé? Une main inconnue a ouvert une porte sur ce qui, un instant plus tôt, était encore une zone interdite. Il lui faut une éternité pour comprendre. Puis, elle se glisse prudemment par le trou, et la voilà de l'autre côté, immobile, la tête enfoncée dans ses épaules crispées. Elle écoute, guettant la main qui viendra l'attraper. Pendant ces 22 années enfermée à l'asile, jamais elle n'a senti d'être humain autour d'elle. Les corps de bâtiment massés derrière elle, tapis comme des fauves, assoupis, semblent prêts à bondir. Elle attend. Le temps s'est arrêté. Personne ne vient la forcer à rentrer. Après avoir longuement hésité, elle ose un premier pas, puis un autre, avant de disparaître parmi les arbres. C'est une forêt de résineux où règne une odeur âcre, semblable à celle des chevaux en route. Elle croit deviner un sentier, elle se déplace lentement et ne se retourne que lorsqu'elle cesse enfin de sentir la lourde respiration de l'asile. Elle est entourée d'arbres. Que le sentier à présent disparu ait été imaginaire n'a pas d'importance. De toute façon, elle ne va nulle part. Échafaudage autour d'un espace vide, elle n'existe pas. Derrière, il n'y a jamais rien eu, ni maison, ni personne. Elle traverse maintenant la forêt à toute allure, comme si malgré tout, elle avait un but. Très souvent aussi, elle reste plantée là, complètement immobile, paraissant elle-même se transformer en arbre. Dans la forêt, le temps est aboli. Il n'y a que les troncs des arbres, des pins, quelques sapins et les rayons du soleil qui tombent sans bruit sur le sol humide. Elle se met à trembler. Une douleur rampe sous sa peau. D'abord, elle croit que cette terrible démangeaison dont elle souffre parfois et qui contraint les infirmiers à l'attacher pour qu'elle ne se gratte pas jusqu'au sang. Puis elle comprend que c'est autre chose. Elle se souvient qu'autrefois, elle avait un mari. Elle ne sait pas d'où lui vient cette pensée, mais elle se rappelle très bien. Elle a été mariée. Il s'appelait Lars. Elle s'en souvient. Il avait une cicatrice au-dessus de l'œil gauche et mesurait 23 centimètres de plus qu'elle. C'est tout pour l'instant. Le reste, elle l'a refoulé et relégué dans l'ombre. La mémoire le revient pourtant. Elle jette un regard perdu autour d'elle, parmi les troncs d'arbres. Pourquoi penser ici à son mari? Lui qui détestait les forêts, lui qui était toujours attiré par la mer, lui qui fut cadet dans la marine, puis hydrographe et capitaine chargé de mission secrète. Le brouillard se dissipe, l'air devient transparent. Elle reste sans bouger. Quelque part, dans un battement d'ailes, un oiseau s'enfuit. Puis à nouveau le silence s'installe. « Mon mari, » pensa Christina Tecker. « J'avais autrefois un mari. Nos vies mêlées formaient un rempart autour de nous. Pourquoi dois-je me souvenir de lui maintenant, alors que j'ai tout oublié et que j'ai trouvé un trou dans la clôture, que j'ai laissé derrière moi le fauve aux aguets ?» Dans sa tête, parmi les arbres, elle cherche une réponse. Il n'y en a pas, il n'y a rien. L'art de l'écrivain consiste surtout à vous faire oublier qu'il emploie des mots. Vous pouvez devenir écrivain, mais il faut être auteur. Et pourquoi pas auteur de nouvelles ? La nouvelle est un genre littéraire et aussi un moyen privilégié pour des auteurs de rendre compte, par des récits brefs, des sujets les plus divers, en variant les genres narratifs, comme policier, science-fiction, fantastique. Ils suscitent notre plaisir de lecteur par leur efficacité et par l'action resserrée autour d'une seule intrigue et quelques personnages. Les novellistes se plaisent à éveiller notre curiosité et à ménager un effet d'attente et de surprise en retardant parfois à loisir la fin souvent inattendue de leur récit. C'est le cas de cette brève histoire que je vais vous raconter, de Claude Bourget. Lucien. Lucien vit un bonheur sans faille, jusqu'au jour où tout semble basculer. Lucien était douillettement recroquevillé sur lui-même. C'était sa position favorite. Il ne s'était jamais senti aussi détendu, heureux de vivre. Son corps était au repos, léger, presque aérien. Il se sentait flotter. Pourtant, il n'avait absorbé aucune drogue pour accéder à cette sorte de béatitude. Lucien était calme et serein, naturellement, bien dans sa peau, comme on dit. Un bonheur égoïste, somme toute. La nuit même, le malheureux fut réveillé par des douleurs épouvantables. Il était pris dans un étau, broyé par les mâchoires féroces de quelques fléaux. Quel était ce mal qui lui fondait dessus ? Et pourquoi sur lui plutôt que sur un autre ? Quelle punition lui était donc infligée ? Oh, c'est la fin, se dit-il. Il s'abandonna à la souffrance en fermant les yeux, incapable de résister à ce flot qui le submergeait, l'entraînant loin des rivages familiers. Il n'avait plus la force de bouger. Un carcan l'emprisonnait de la tête aux pieds. Il se sentait emporté vers un territoire inconnu qui l'effrayait déjà. Il crut entendre une musique abyssale. Sa résistance faiblissait. Le néant l'attirait. Un sentiment de solitude l'envahit. Il était seul dans son épreuve. Personne pour l'aider. Il devrait franchir le passage en solitaire. Pas moyen de faire autrement. C'est la fin, se répéta-t-il. La douleur finit par être si forte qu'il faillit perdre la raison. Et puis, soudain, ce fut comme si les mains de Dieu l'écartelaient. Une lumière intense l'aveugla. Ses poumons s'embrasèrent, il poussa un cri. En le tirant par les pieds, la sage-femme s'exclama d'une voix tonitruante « C'est un garçon !» Lucien était né.
Je plonge, j'ai plongé dans la vie, en sortant de ma mère, j'ai plongé dans j'ai craché, j'ai gueulé comme un âne. Au secours, je me noie. Ouch! Personne n'a bronché, ne m'a tendu de rame, de coquille de noix. Ouch! Alors tant mieux, tant pis, j'ai appris à nager, puisque c'était mon rôle. Ouch! Certains requins m'ont dit, on va pas te manger, mais travaille ton crawl. Ce sera plus prudent. J'ai plongé dans la vie en sortant de ma mère. J'ai plongé dans la vie comme dans l'eau de la mer. Et depuis me voilà le bouillon sur le dos et buvant cette amère. Buvant ici et là trois grandes tasses d'eau pour un petit bol d'air. Ouch! Il y a des sirènes, quelquefois elles m'entraînent vers des fonds irisés. Ouch! Dans leurs bras je bascule, mais pareils à des bulles s'envolent nos baisers. Ouch! De nouveau je m'enfuis. J'ai plongé dans la vie en sortant de ma mère. J'ai plongé dans nageant dans un fauteuil, des poissons argentés me croisent sur ma route. Ils me jettent un sale œil quand ils voient arriver mes cheveux sur leur soupe. à quoi ça sert ce bain? Surveille-t-on mon style? Je me mouille pourquoi? Aouch! Me tendra-t-on la main sur un rivage d'île en me disant c'est toi? On t'attend des fistons. J'ai plongé dans la vie en sortant de ma mère. J'ai plongé dans la vie. J'ai plongé dans la mer.
Publier un livre de poésie, c'est comme jeter un pétale de rose au fond du Grand Canyon et attendre l'écho. Disait Dan Marquis, auteur américain à la fois romancier, poète et chroniqueur. À quoi bon des poètes en temps de détresse? Demandait Hölderlin, peut-être, et philosophe allemand, dans un petit poème lyrique composé à la fin de l'année 1800. Cette question qui le taraudait, écrit Françoise Ascal, pouvait être la nôtre en ce 21e siècle qui s'est ouvert avec tant de barbarie et se poursuit sans qu'on puisse lire la moindre et le moindre signe d'apaisement sur la planète. Notre époque est celle de toutes les incertitudes. Que peuvent donc la poésie et ses armes, légères, contre le désenchantement, contre ce qui semble la condamner aux marges? Eh bien, arpenter le continent poétique d'Abdelatif Labi, se laisser traverser par sa parole rebelle autant que généreuse, parole adressée, ouverte au partage, apporte une réponse sans qu'il soit besoin de discourir. Une lecture qui lève les doutes quant au pouvoir des mots. Une poésie qui va à l'essentiel et qui n'a peur de rien. J'ai choisi de vous en lire deux, très courtes. La première, En vain j'émigre, et la seconde, Les loups. J'émigre en vain. Dans chaque ville, je bois le même café et me résigne au visage fermé du serveur. Les rires de mes voisins de table taraudent la musique du soir. Une femme passe pour la dernière fois. En vain j'émigre et m'assure de mon éloignement. Dans chaque ciel, je retrouve un croissant de lune et le silence têtu des étoiles. Je parle en dormant, un mélange de langues et de cris d'animaux. La chambre où je me réveille est celle où je suis né. J'émigre en vain. Le secret des oiseaux m'échappe comme celui de cet aimant qui affole à chaque étape ma valise. Les loups. J'entends les loups. Ils sont bien au chaud dans leur maison de campagne. Ils regardent gloumement la télévision. Pendant des heures, ils comptent à voix haute les cadavres et chantent à tue-tête des airs de réclame. Je vois les loups. Ils mangent à 13 le gibier du jour et élisent à main levée le Judas de service. Pendant des heures, ils boivent un sang de village encore jeune, peu fruité, à la robe défaite, le sang d'une terre où sommeillent des charniers. J'entends les loups. Ils éteignent à minuit et violent légalement leurs femmes. Dragging out your window, dragging out the dead, singing a mess. You snakes and ladders flip the lid. Eye pops the cracker, snaps you in the head, snaps you in the neck, kicks you in the teeth. Steel toe caps, takes all your credit cards, get up, get the guns, get the eggs, get the flat in the face, the flat in the face, the flat in the face. Dance you fucker, don't you dare, don't you dare, don't you flat in the face. Take it with the love it's given, take it with a pinch of salt, take it to the tax man. Let me back, let me back, I promise to be good. Don't look in the mirror at the face you don't recognize. Help me call a doctor, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside. I keep the world from the door. Tells me all the ways that he's gonna mess me up. Steal all my children if I don't pay a ransom. I'll never see him again if I squeal to the cops.
I
wives and dinners, cold wives and mistresses, cold wives of Sunday paper sick, boys in first class, don't know they brought a middle. Someone else is gonna come and clean it up, burn a race for the job, someone always does, I wish.
Un chef-d'œuvre de la nature n'est jamais qu'un dictionnaire en désordre, disait Jean Cocteau. Jules Renard, de façon plus poétique, disait que l'accent circonflexe est l'hirondelle de l'écriture. Il était impossible de réaliser cette émission sans parler de ce poète qui, cette année, aurait eu 100 ans, même si celui-ci criait au monde entier « Je voudrais pas crever ». Bien sûr, vous l'avez tous reconnu, j'ai nommé Boris Vian. Il y a du soleil dans la rue. Il y a du soleil dans la rue. J'aime le soleil. Mais j'aime pas la rue. Alors je reste chez moi, en attendant que le monde vienne, avec ses tours dorées et ses cascades blanches, avec ses voix de larmes et les chansons des gens qui sont gais, ou qui sont payés pour chanter. Et le soir, il vient un moment où la rue devient autre chose, et disparaît sous le plumage de la nuit pleine, de peut-être, et de rêves de ceux qui sont morts. Alors je descends dans la rue, elle s'étend là-bas, jusqu'à l'aube, une fumée s'étire tout près, et je marche au milieu de l'eau sèche, de l'eau rêche, de la nuit fraîche. Le soleil reviendra bientôt. On ne pouvait pas terminer cette émission sans un clin d'œil à Graham Allwright, à l'amitié, l'amour, la joie. Je suis venue vous lire reviendra jeudi prochain, à la technique et au choix musical Michel Yordanov, à la lecture et à la réalisation Corinne Tardieu. Vous pouvez réécouter notre émission sur la page Je suis venue vous lire en podcast sur www.jet.asso.fr. Bonne écoute sur Jet FM.
Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas fini. On peut chanter quand le verre est bien rempli. Tu vends encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et souviens-toi de cet été, la première fois qu'on s'est saoulé, tu m'as ramené à la maison, en chantant, on marchait à reculons. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie, on a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je suis parti changer d'étoile, sur un navire j'ai mis la voile, pour n'être plus qu'un étranger, ne sachant plus très bien où il allait. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie, on a fêté nos retrouvailles. Je m'ennuie pas, mais il faut que je m'en aille. Je t'ai raconté mon mariage à la mairie d'un petit village. Je rigolais dans mon plastron, quand le maire essayait de prononcer mon nom. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je n'ai pas écrit toutes ces années, et toi aussi t'es marié, t'as trois enfants à faire manger, mais j'en ai cinq si ça peut te consoler. Tu vends encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie, on a pété nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille.